VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Sénégal, l'ex-président tchadien Hissène Habré, condamné en 2016 à la prison à vie pour crime contre l'humanité, sera définitivement fixé sur son sort après-demain. Avec l'annonce du verdict final de son procès en appel, tenu en janvier devant un tribunal spécial africain. Convoqué jeudi à 10h, heure locale et temps universel, cette audience sera marquée par la lecture du verdict, qui sera définitif et irrévocable, a déclaré à l'AFP le porte-parole du tribunal spécial Marcel Mendy. En cas de condamnation, Hissène Habré, aujourd'hui âgé de 74 ans, purgera sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine. Au Burkina Faso, un gouvernement entier devant les juges. L'ex-premier ministre burkinabé Luc-Adolphe Thiaw et 34 de ses ministres, dont l'ex-président Blaise Compaoré en tant que ministre de la Défense, sont cités à comparaître devant la Haute Cour de justice jeudi pour un procès sur la répression de l'insurrection de 2014 ayant conduit à la chute du régime Compaoré. L'ex-président burkinabé vit depuis en exil à Abidjan. Son avocat français Pierre-Olivier Sûr sera à Ouagadougou pour le défendre. En Guinée-Bissau, impatience croissante de la population face à la persistance de la crise politique qui a commencé en août 2016 à la suite de la démission du gouvernement dirigé par le Premier ministre Domingo Simões Pereira, qui appartient au même parti que son rival, le président José Mário Vaz, à savoir le PAIGC, vainqueur des dernières élections législatives de 2014. Écoutez la réaction de quelques citoyens bissau-guinéens au micro de notre correspondant sur place, Noah Mankali.
C'est pitoyable parce que les gens n'avaient jamais pensé que cette crise va durer comme les mois qu'il a consommé. Nous, les Bissau-Guinéens, les citoyens, notre grande préoccupation aujourd'hui, c'est de voir les acteurs politiques, des ententes, pour trouver un chemin afin que le pays sorte dans cette situation parce qu'on a marre, on est très fatigué, rien ne marche, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de conditions sociales pour que les gens continuent à vivre normalement.
Depuis que cette crise a commencé, c'est tout le monde qui en sent. On est fatigué, même très fatigué. Les politiciens ne voulons pas s'asseoir autour d'une même table pour discuter et surmonter rapidement cette crise. Avec la crise, il y a des familles qui mangent qu'une seule fois par jour. C'est triste.
Nous sommes très fatigués avec cette crise politique qui continue de persister en Guinée-Bissau. La crise va bientôt faire 2 ans car tout est dans l'impasse. C'est nous qui en sommes des victimes. Ces dirigeants politiques n'ont pas pitié de nous, ils nous maltraitent. Actuellement, le président Joma ne s'entend pas avec le président de l'Assemblée nationale populaire, Cipriano Kassama. Nous avons la grève un peu partout au niveau de l'éducation, de la justice et même la santé.
Des réactions de Bissau-Guinéen au micro de notre correspondant sur place, Noah Mankali.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, les États-Unis débuteront demain, mercredi, le retrait de leurs forces sécuritaires déployées depuis 2011 dans l'est de la Centrafrique pour lutter contre les rebelles de l'armée et de résistance du Seigneur, la LRA de Joseph Kony. Le temps est venu de passer à autre chose, étant donné que l'organisation, la LRA, est vraiment en train de se battre pour sa survie, a expliqué le 20 avril, lors d'une conférence de presse téléphonique, le général Thomas Waldhauser, qui est à la tête de l'AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique. Selon l'AFRICOM, la LRA compte aujourd'hui 100 membres actifs seulement, contre plusieurs milliers il y a une dizaine d'années. Mais son leader, Joseph Kony, reste jusqu'à présent introuvable. En RDC, malgré la baisse des cas de violence sexuelle au Nord Kivu, la prise en charge et l'accompagnement des victimes continuent à l'hôpital Heal Africa de Goma. Les victimes reçoivent des soins tout en suivant une formation qui leur permettra de se lancer demain dans de petites activités génératrices de revenus telles que la coupe et la couture. De Goma, le reportage de notre correspondant Charlie Kasereka.
La grande majorité des victimes qui sont soignées ici arrivent des milieux ruraux où les groupes armés font encore la loi. Elisabeth, 22 ans, Handicapée de son état, regard perdu, assise dans une chaise roulante, elle a été violée à 2 reprises et engrossée par les rebelles dans la région de Beni. Malheureusement, après l'accouchement, elle souffre de la fistule.
Ils sont arrivés dans le village, tout le monde avait déjà fui. Moi, je n'ai pas réussi à m'enfuir comme je suis handicapée. Ils m'ont violée. Et la deuxième fois, ils ont même emporté aussi l'argent que je gardais à côté.
En plus du traumatisme subi par l'acte, certaines d'entre elles ne peuvent plus rentrer dans leur milieu d'origine suite au stigma érigé. Au Centre et l'Africa, l'accompagnement n'est pas seulement médical. Elles sont aujourd'hui 40 dans l'atelier de coupe et couture, accompagnées de leurs encadreurs, chacune d'elles avec son histoire. Ici, tout est question de technique, douceur et tolérance pour ces victimes devenues vulnérables dans leur propre communauté.
Dans cet atelier, nous formons les mamans comment coudre les vêtements. Nous avons choisi de les former pour leur épargner de la vulnérabilité. Et puis aussi pour les prises en charge. Aujourd'hui, nous encadrons 40 personnes. Toutes sont vulnérables.
Les multiples sensibilisations et les renforcements des lois en la matière ont favorisé la chute des cas de violence à l'est de la RDC. Docteur Justin enregistre tous les nouveaux cas ici à Île Africa, les grands centres hospitaliers spécialisés dans les soins et accompagnement des victimes de violences sexuelles au Nord Kivu.
Pour le moment, je peux recevoir par mois 60 à 40 cas ici à l'hôpital Île Africa. En fait, à l'époque, c'était vraiment beaucoup.
Le gouvernement congolais a créé une police spéciale de la protection de l'enfant et de la femme pour punir sévèrement les coupables. Depuis 15 ans, cette police exerce au Nord Kivu. Le commissaire Mutayonga Josaphat est le numéro 2 de la police spéciale de la protection de l'enfant ici au Nord Kivu.
Par rapport à l'année passée, on avait enregistré pour le mois de janvier 31 cas. Mais pour le mois de janvier de cette année, il y a eu seulement 14 cas. Vous constaterez qu'il y a une amélioration. La population dénonce puisqu'ils savent qu'à notre niveau, ils ne vont rien payer.
La stigmatisation des victimes de violences sexuelles reste encore un combat pour les activistes dans ce domaine, alors que le viol reste encore un sujet tabou dans la communauté. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
En France, hommage aujourd'hui aux policiers tués jeudi lors de l'attentat sur les Champs-Élysées. Hommage en présence notamment des deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, à savoir le centriste Emmanuel Macron et Marine Le Pen. François Hollande, le chef de l'État français, a salué le courage et la détermination du capitaine Xavier Jugelet dans la cour de la préfecture de police à Paris. On l'écoute.
Aujourd'hui, la nation tout entière exprime sa profonde gratitude et sa reconnaissance au capitaine Xavier Jugelet. Il avait l'esprit droit et l'âme honnête. C'était un homme de cœur et d'honneur. Il était devenu policier par conviction et comme citoyen, il voulait être libre de les exprimer et de les vivre pleinement. Qu'il sache que son sacrifice est à conforter la démocratie. Qu'il sache qu'après lui, d'autres se lèveront pour poursuivre ce qui a été engagé pour la liberté et la dignité humaine. Qu'il sache que nous sommes ici, et sa famille, son conjoint, ses collègues, fiers de lui, qu'il repose en paix. Nous ne l'oublierons jamais.
Le président français François Hollande. Actualité américaine, la Corée du Nord toujours en tête de l'agenda international du président américain Donald Trump. Le chef de l'exécutif américain a convié mercredi à la Maison-Blanche, l'ensemble des 100 sénateurs américains pour les informer à ce sujet. Les précisions de Michel Joseph.
La séance de briefing de la Maison-Blanche sera conduite par le secrétaire à la Défense Jim Mattis, son collègue du département d'État Rex Tillerson, le directeur national du renseignement Dan Coats et le chef d'état-major interarmé, le général Joe Dunford. Lors d'un déjeuner lundi avec les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, le président Donald Trump a qualifié d'inacceptable le statu quo en Corée du Nord. Le Conseil doit se préparer à prendre des sanctions plus vigoureuses contre les programmes nucléaires et de missiles balistiques de Pyongyang. Le chef de l'exécutif américain a tenu ses propos après des entretiens téléphoniques avec les leaders du Japon, de la Chine et de l'Allemagne. Le président Trump et les autres responsables américains n'ont cessé de répéter que toutes les options sont sur la table pour, disent-ils, résoudre le problème des provocations nord-coréennes.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.